Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de culte pour tous, un culte trans ou multigénérationnel, je ne sais pas comment il faut le dire. Nous avons réfléchi à un thème à donner à ce culte et nous nous sommes arrêtés assez vite, je dois dire, sur la résurrection. Alors vous me direz, Pâques est loin derrière nous, la Pentecôte est passée par-dessus, pourquoi revenir sur ce thème de Pâques, eh bien, il nous a semblé que ce n'était pas évident, peut-être, de comprendre cette chose-là et surtout de se l'approprier pour soi. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Pas comme une abstraction, quelque chose qu'on décrirait, mais qu'est-ce que c'est pour moi? Et qu'est-ce que ça change, surtout, de me l'approprier, d'en faire quelque chose dans ma propre vie tous les jours? Vous avez reçu en entrant chacun une fleur de taille différente. Et c'est justement pour avoir votre réponse, votre contribution à vous, que nous vous avons donné cette fleur pour répondre à votre manière à la question « La résurrection, pour moi, qu'est-ce que c'est ?» Alors j'ai déjà entendu que la question n'était pas simple, mais vous avez remarqué la gestion du temps admirable au cours de ce culte. Vous aurez tout le culte pour y réfléchir, pour écouter ce que d'autres ont à dire de la résurrection pour peut-être vous inspirer de leurs réponses et des questions qui restent, pour écrire votre propre vision de la résurrection sur une de ces fleurs. Et à la fin du culte, vous pourrez, au moment où on vous l'indiquera, monter dans un bel ordonnancement vers ce tableau ici. On fera une file, quelque chose d'ordonné, pour que ces fleurs, ces professions de foi, un peu, voilà ce que c'est que la résurrection pour moi, apparaissent et restent parmi nous pendant un bon moment, parce que nous avons l'habitude de garder ces expressions assez longtemps dans notre culte. C'est une profession de foi pour aujourd'hui. Alors, vous serez gentil de ne pas écrire recto verso, puisqu'il faut les coller avec de la pâte à fixe, donc écrivez d'un côté seulement. Nous voici donc au cœur de la résurrection, mais première question à se poser, est-ce que la résurrection, comme je le disais tout à l'heure, c'est Pâques, ça a déjà eu lieu, au fond, c'est derrière nous. Est-ce que la résurrection est unique? Eh bien, je crois qu'on peut répondre par oui et par non. Il y a eu d'autres ressuscités dans le Nouveau Testament, il y a eu la fille de Jaïrus, il y a eu Lazare, et à chaque fois, ils étaient accompagnés, entourés, par des gens qui s'adressaient à eux et s'attachaient à les relever, à les remettre debout, à les guérir, à leur redonner de l'espoir et à remettre leur vie en entier debout. Mais peut-être qu'il faut commencer par revenir au récit premier, et c'est les années découvertes qui vont nous redire la première scène de la résurrection qui est le tombeau vide.
Donc, au niveau des années découvertes, nous avons abordé le récit du jour de Pâques et nous avons choisi le récit écrit par Richard Gossin à la façon Godly Play à partir des quatre témoignages de Matthieu, Marc, Luc et Jean que l'on trouve à la fin des quatre évangiles et le témoignage de Paul. Donc, les enfants et les parents vont vous lire ce récit.
À la fin des quatre évangiles, on trouve une histoire terrible. Jésus est arrêté, jugé et condamné à mort. Il va être crucifié sur une croix avec deux autres personnes. Lui, il n'a rien fait de mal, les deux autres sont des bandits.
Et ses amis, où sont-ils? Les femmes sont restées pendant ce terrible moment près de la croix avec Jean.
Les autres hommes, les disciples, les amis de Jésus, eux, ils ne sont pas restés. Ils ont eu peur d'être arrêtés. Comme Pierre qui a dit « Je ne connais pas ce Jésus ».
Cela s'est passé un vendredi.
Le soir, le corps de Jésus a été descendu de la croix et allongé dans un tombeau. Devant le tombeau, on a roulé une grosse pierre. Les femmes ont vu où le corps a été placé. Et puis elles sont parties dans très tristes. Elles sont reparties à leur maison.
Et puis, le lendemain, le samedi, les femmes se disent qu'il faut mettre des parfums dans le tombeau. C'est ainsi que l'on faisait en ce temps-là. Pas de fleurs, mais des parfums. Elles achètent les parfums.
Entre elles, elles parlent. Comment tout cela s'est-il passé ? Pourquoi leur ami a été arrêté, condamné à mort et crucifié ? C'est injuste. Comment Dieu a-t-il laissé faire tout cela ? Et pourquoi les hommes, disciples, amis de Jésus, l'ont-ils abandonné ? C'est triste.
Elles décident ensemble que le lendemain, elles iront à la tombe mettre des parfums.
C'est dimanche, le soleil n'est pas encore levé. Elles prennent les parfums et quittent leur maison. Elles traversent la ville, elles passent près des croix. Et puis, une question. Mais devant la tombe, il y a une énorme pierre. Elles ne pourront pas la rouler. Elles n'avaient pas pensé à cela.
Elles entrent dans le jardin qui sert de cimetière. Et là, une incroyable surprise les attend. La pierre qui bouchait l'entrée du tombeau a été roulée, mise de côté. Elles entrent dans le tombeau lentement, avec crainte, et là... Elles regardent. Il n'y a pas de corps. Le corps a disparu. Le tombeau est vide. Et un être leur apparaît, un ange.
N'ayez pas peur. Jésus, que vous cherchez, n'est pas ici. Il est vivant. Prévenez ses amis, les disciples. Dites-leur qu'il est vivant, ressuscité.
Elles reculent, effrayées, sortent du tombeau. Et elles se précipitent pour avertir les hommes, les disciples. Elles passent près des trois croix. Elles traversent la ville. Elles entrent dans la maison où les hommes se sont regroupés.
Il est vivant. Jésus est ressuscité.
Mais ils ne les croient pas. Ils secouent la tête comme s'ils les prenaient pour des folles. Et puis tout à coup, Pierre sort de la maison et se met à courir. Derrière lui, Jean. Jean le rattrape et tous deux courent.
Pierre est devant. Jean passe devant. Il traverse la ville, passe devant les croix, arrive devant le tombeau.
Jean le premier et entre Pierre arrive tout essoufflé, il n'y a personne, pas de corps, elles ont dit la vérité.
Donc on s'est ensuite posé des questions, je me demande ce que j'aurais fait ce jour-là. Je me demande si je me serais levée très tôt avec les femmes pour mettre du parfum dans la tombe. Je me demande si j'aurais cru les femmes. Est-ce que j'aurais couru avec Pierre et Jean vers le tombeau ? Je me demande si je serais restée avec les disciples dans leur maison, sans croire ce que disaient les femmes. Je me demande si je serais restée là où je suis. Et puis, on s'est posé aussi une autre question. Je me demande ce que cela veut dire, Jésus est ressuscité.
Jésus est mort et il s'est relevé et il a marché. Il est encore vivant.
Ça veut dire que Jésus est mort dans cette vie-là, mais qu'il est monté au ciel et que dans le monde du paradis, il est vivant.
Jésus est mort, mais il a son âme qui vit encore parmi nous. Il est partout.
On s'est demandé aussi ce que ça pouvait nous apporter que Jésus soit ressuscité, qu'il soit encore vivant parmi nous.
Jésus peut nous voir. Nous aider, nous surveiller. Il nous aide. Il est là pour nous protéger.
Moi, des fois, mais pas tout le temps, j'ai l'impression qu'il me regarde, qu'il me suit là-haut.
Je parle à Jésus et à Dieu et je sens qu'il m'écoute.
La voilà la surprise, la grande surprise de la résurrection. Mais c'était la résurrection unique, celle qui est derrière nous. Celle qui est encore dans le passé. Mais comme vous l'avez déjà entendu, il est très possible que celui qui a disparu soit encore là, d'une autre manière, en parole, une parole qu'on n'arrête pas. Si on s'approprie ce qui s'est passé à ce moment-là, une parole qui libère, qui envoie, alors la résurrection n'est plus celle de quelqu'un d'autre, mais elle peut aussi devenir la mienne au quotidien. Et c'est justement ce qui s'est passé dans la vie d'un homme qui n'était pas prédestiné à devenir apôtre et qui s'appelait à l'époque Saul. Il changera de nom bientôt, mais ça n'est pas encore le moment. Sur le chemin de Damas, quelque chose le frappe, il est arrêté, et à ce moment-là, sa vie change. Je vous propose d'entendre le récit de cette conversion brutale, qui est celle du futur apôtre Paul, qui s'appelle encore Saul à ce moment-là, et c'est Émilie et Louise qui vont nous le lire.
Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme s'il était en route et approchait de Damas, soudain, une voix venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire rentrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, rue Jude. Tu demanderas un homme de Tars nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananias entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé.
Voilà, merci. On vient de partager ce texte biblique et avec les enfants. On s'est dit, comment comprendre ce texte? Chacun s'est exprimé et on va commencer avec Hélène et Daphné. Saul, persécuteur.
Saul persécute les premiers chrétiens. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait et du malheur qu'il cause. Nous sommes dit que peut-être lui-même était-il malheureux.
Mais ce que nous retenons du texte, c'est que même si nous avons été odieux, mauvais, prétentieux, nous avons le droit à une nouvelle chance.
Une nouvelle chance. C'est à ce moment-là que on assiste à la révélation du Seigneur. Et j'appelle Shelley et Raphaël.
Ceux qui persécutent le Seigneur ne le voient pas. Saul ne voit pas le Seigneur. Cette lumière est comme un choc qui le fait passer de l'obscurité à la clarté. Mais c'est brutal, il n'arrive plus à ouvrir les yeux. Il se fait conduire par la main comme les aveugles.
Les 3 jours où Saul est aveugle et ne mange ni ne boit sont 3 jours d'introspection pour la lumière infuse à l'intérieur de Saul. Sa tête, lui, faisait répandre le malheur, mais son cœur, lui, disent aux autres choses maintenant, ce sont 3 jours nécessaires pour se transformer.
Et se transformer.
Alors pour se transformer, une autre personne apparaît qui s'appelle Ananias. Le rôle d'Ananias, intermédiaire entre Jésus et Saul, et Lara et Evin en nous.
Le Seigneur passe par Ananias pour transmettre son message à Saul, mais Ananias a peur de faire ce que lui demande Jésus.
Ce passage nous montre que Jésus attend de nous de ne pas toujours rester dans nos habitudes, nos peurs, nos logiques, de lui faire confiance et de nous faire confiance également.
Et quand la confiance est là, la renaissance de Saul.
Saul retrouve la vue comme il l'a perdue, d'un coup, d'un seul. C'est symbolique, ce n'est pas comme une lente maladie qui nous touche et qu'on guérit. Pendant les 3 jours d'aveuglement, Saul a prié et réfléchi. Il a surtout réalisé ce qu'il faisait et compris le message de Jésus.
Les écailles qui tombent de ses yeux, c'est le mal qui l'aveuglait. Grâce à Ananias, envoyé par Jésus, il retrouve la vue, comme s'il renaissait à la vie en laissant ses péchés derrière lui. Les écailles qui tombent de ses yeux sont une image du mal qui part de son corps ou de la mue du serpent qui laisse sa peau derrière lui.
Alors, maintenant, la réflexion est comment tout ça s'articule. Et avec les parents, on va essayer de donner quelques pistes. D'une résurrection à l'autre. Quand on pose la question de la résurrection, de manière générale, on pense à la résurrection de Jésus, comme le péché originel d'Adam et Ève. La résurrection de Jésus pourrait être qualifiée de résurrection originelle. En effet, ce moment crucial de la vie de Jésus, enfin de sa mort, puis de sa résurrection, a son lot d'enseignements. Pour nos vies, à nous, une vraie résonance. Nous avons retrouvé avec grand plaisir 2 enseignements dans le texte choisi. Pour l'introduction du bulletin de paroisse de ce mois-ci, la profession de foi écrite par Béatrice Cléraud-Mazir, pasteur de l'oratoire.
Elle nous dit comme premier enseignement, la résurrection de Jésus a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. En effet, chacun de nous a le pouvoir de donner sens à la résurrection de Jésus en faisant vivre, résonner le message des évangiles.
Et elle nous dit, en deuxième enseignement, « Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. » Jésus n'a manifestement pas le monopole de la résurrection. L'histoire de la conversion de Saul est une invitation à la résurrection de l'homme. Jésus va chercher Saul. Il va chercher le plus éloigné, le plus virulent, pour le faire renaître à la vie avec un nouveau regard, un nouvel esprit. Si l'histoire de Saul est assez radicale, Béatrice Cléraud-Mazir nous dit que nous aussi, au quotidien, nous sommes appelés à réouvrir les yeux, changer notre regard. Nous avons le droit de changer tout court pour renaître à la vie chrétienne.
Voilà. Les paroles maintenant vous appartiennent. D'une résurrection à l'autre, de la résurrection de Jésus à nos petites résurrections au quotidien. Amen.
La résurrection, vaste programme, comme vous l'avez vu et entendu, parce qu'effectivement, tout commence par un tombeau vide. La surprise des femmes qui cherchaient le corps de Jésus et qui ne l'ont pas trouvé. Ça commence par une surprise. C'est suivi par la peur. Elles ont eu peur. Elles n'ont pas compris. Comment aurions-nous réagi à leur place? Elles sont pourtant allées porter cette chose incroyable, puisqu'elles étaient les premiers témoins. Les disciples n'ont pas cru les premiers témoignages. Ils ont hérité d'une stupeur et ils sont passés par l'incrédulité, eux aussi. Et pourtant, l'enseignement de Jésus a été tellement marquant pour eux, sa parole tellement forte, que l'espérance est revenue. Pas tout de suite, pas du jour au lendemain, il leur a fallu du temps. Il y a bien eu une sorte de miracle, un miracle qui a pris son temps. Un corps, ça peut disparaître, c'est vrai. D'ailleurs, Il n'est plus là, aujourd'hui, pour nous. Mais une parole qui donne la vie, qui fait espérer de plus grandes choses, qui redresse, qui relève, cette parole-là ne disparaît jamais. Il aura fallu du temps pour comprendre cela. Et à ce moment-là, pour eux, ça a été la résurrection. Ils l'ont compris à leur manière et à leur rythme. Les disciples ont petit à petit repris espoir. Ils se sont dit les uns aux autres, si cette parole-là ne peut pas disparaître, alors elle doit avoir dans nos vies la même puissance que quand Jésus était avec nous. Quand il était parmi nous, la vie débordait, tout paraissait possible. Cette chose doit pouvoir revenir. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Après le jour de la Pentecôte, la parole qu'ils avaient reçue recommençait à déborder de partout. La terre entière était venue chercher une parole forte, une parole qui change la vie, et tous sont repartis avec, chacun à sa manière et aussi chacun à son rythme. Une parole puissante, capable de retourner les situations les plus impossibles, pourquoi pas ? Celui qui deviendra l'apôtre Paul, il s'appelle Saul pour le moment, dans le texte que nous avons lu, celui-là a justement vécu une situation comme celle-ci. Il n'a pas connu Jésus personnellement, il a vécu plus tard, mais il a, de son côté, activement persécuté tous ceux qui avaient pris au sérieux les paroles de Jésus. Et puis un jour, la rencontre a eu lieu comme une sorte de prise de conscience foudroyante, ce que Paul expérimente à ce moment-là et qui le rend aveugle pendant 3 jours est assez comparable au temps de réflexion de 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson. 3 jours à se battre avec soi-même, 3 jours à accepter petit à petit sa vocation et finalement accomplir la mission que Dieu lui adresse, c'est-à-dire aller annoncer à Ninive la bonne nouvelle du pardon. D'ailleurs, la ville de Ninive n'a connu aucun châtiment, elle n'a pas été punie. Pourquoi ? Parce qu'elle a été totalement pardonnée. Jonas était bien un porteur de bonnes nouvelles, un diseur d'évangile. Il lui a fallu un moment pour l'accepter. Mais l'aventure extraordinaire de Saul ressemble aussi, bien entendu, au séjour de Jésus dans sa tombe. Il lui faut à lui aussi ce temps de solitude, d'obscurité, au fond de la mort, dans la position qu'on a dans le sommeil ou dans la mort, pour ne plus être seulement cet homme dont on a pris la vie, mais devenir surtout une parole qui donne la vie, encourage, redresse, guérit, libère, déculpabilise tout ce qu'elle touche. Au matin du 3e jour, lundi de Pâques, c'est chose faite. Voilà ce que nous avons essayé de vous dire ce matin, chaque groupe à sa manière, chacun à son rythme, face à un tombeau vide, pour nous aussi, comme pour ces femmes ce jour-là, la surprise, l'étonnement et une foule de questions qui attendent nos réponses. Face aux circonstances extraordinaires vécues par Saul au moment de sa conversion, un autre genre de résurrection nous attend. Nous aussi, comme Saul, nous n'avons pas connu Jésus en personne, et il se pourrait bien qu'une rencontre, pourtant, soit toujours possible avec lui à partir du moment où nous relisons ses paroles. Un jour ou l'autre, dans notre vie, nous vivons des moments extraordinaires de résurrection où nous sommes littéralement remis debout, où la liberté est retrouvée, la culpabilité et le doute enfin levés, une situation bloquée redevient prometteuse d'avenir, etc., etc. Et ce n'est pas tout. Par nos propres paroles et nos gestes d'accueil, d'encouragement, nous pouvons non seulement recevoir cette parole qui donne la vie et retrouver vie à notre tour, mais nous pouvons aussi être passeurs de résurrection. Nous pouvons à notre tour être vivifiants et donner la vie. Amen.